Oxford.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
De retour à Entrevue au Cinéma des Quais à Belfort pour la 30e édition du festival. Thomas Salvador nous a quittés et nous a rejoint Hassan Ferrani, réalisateur de Dans ma tête, un rond-point, un documentaire algéro-franco-libano-qatari qui est présenté dans le cadre de la compétition internationale. Bonsoir Hassan.
Bonsoir.
Alors Hassan, vous êtes né à Alger en 1986. Donc depuis 2006, vous avez réalisé 4 courts-métrages, dont 3 documentaires. Pour Dans ma tête, un rond-point, qui est évoqué votre premier long-métrage, vous vous installez dans un abattoir à Alger et vous filmez au fil des jours ces travailleurs. Donc on va découvrir dans un espace où la mort est industrialisée et organisée, la vie d'hommes dont l'âge va d'une vingtaine d'années à 80 et quelques années. Et à travers leur vie, on croise aussi leurs espoirs, leurs doutes, leurs déceptions. Donc tout d'abord, quelle est la jeunesse de ce film, Hassan ?
Alors d'abord, ça a commencé parce que j'habite mon quartier à Alger, vraiment à côté des abattoirs. J'ai grandi dans un quartier vraiment qui est pas très loin et j'ai toujours été un peu fasciné par cet endroit qui est au centre-ville pratiquement et qui témoigne un peu des derniers moments d'un quartier avec des manufactures, des usines qui ont disparu aujourd'hui. Et les abattoirs restent vraiment un des derniers témoins de cette époque-là. Les abattoirs d'Alger sont situés dans le quartier du Ruisseau, qui est un quartier très connu à Alger. Et c'est un quartier qui est traversé anciennement par un oued qui s'appelle l'oued Knis. Et c'est là où on trouve les brocanteurs jusqu'à aujourd'hui. C'est là aussi où on trouve le Mont de Piété. C'est là où il y a la Banque Nationale. C'est là où on imprime l'argent. Donc à travers l'oued, il y a toute une vie, toute une histoire qui s'est construite autour. Et donc les abattoirs datent d'Alger, c'est un bâtiment qui date à peu près du début du XXe siècle et que tous les Algérois connaissent. Et ensuite ça a été l'envie, donc ça c'est pour resituer un peu le contexte des abattoirs, géographiquement aussi. Mais les abattoirs est aussi un lieu qui va disparaître bientôt, on ne sait pas encore quand. Et c'est aussi l'envie de faire un film avec des ouvriers dans ce lieu-là. Et cette envie, ce désir aussi de faire un film avec eux. Il y a eu très peu de films réalisés en Algérie et qui témoignent un peu un travail avec des ouvriers dans des usines. Et donc c'était aussi ce désir-là avant tout de faire un film avec eux.
Et oui, et alors vous le disiez hier à la rencontre, vous aviez envie de faire un film avec des ouvriers et pas sur des ouvriers. Et alors justement, pourquoi pas sur des ouvriers ?
Oui, pas sûr, parce que c'est pas un sujet. Donc c'est une aventure avant tout. C'est un peu comme ça que je conçois le cinéma. Et une aventure avec des hommes et quelque chose qui se fabrique ensemble. C'est pas le regard de quelqu'un sur qui vient de quelque part et qui raconte qui est là pour dire comment se passe le travail, mais avant tout un échange, avant tout presque des ouvriers, des artisans qui rencontrent d'autres ouvriers, d'autres artisans. Donc, c'était l'idée de faire une immersion, mais pas dans l'idée d'immersion simple et on regarde ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est peut-être l'inverse d'une immersion. C'est une immersion physique, mais de se dire on débarque dans ce lieu et on fait partie du décor presque. On travaille avec eux, on discute et ça a été surtout ça, ce travail. C'était vraiment de l'échange, beaucoup de discussions, et la caméra a permis d'avoir ces débats-là, ces discussions autour de qu'est-ce que c'était que le cinéma, la différence entre le reportage et le documentaire, là où nous on avait envie d'aller, et voilà, l'outil de la caméra nous a permis un peu tous ces échanges.
Florence.
Il y a des passages que je dirais presque poétiques, avec ces personnes assez âgées qui ont une parole comme ça un petit peu presque lyrique. Comment ça s'est construit, ces moments-là qui viennent finalement presque rythmer les moments de travail et les échanges avec les autres ouvriers de l'abattoir? C'est des passages un peu à part en fait, je trouve.
Vous parlez de poésie, c'est quelque chose qui était dans mes recherches dès le départ. Je partais en me disant que j'allais à la recherche de ce qu'on pouvait porter comme poésie dans un lieu de carnage et de mort et de son. Et c'est ce que j'ai essayé de chercher pendant tout le film. Et il se trouve que plusieurs de ces personnages portent cette poésie à travers une sagesse populaire, à travers des poèmes, à travers des... Par exemple, le vieux dont vous parlez a passé 70 ans dans ses abattoirs. Et lui, quand il était jeune, donc dans les années 30, il avait son petit calepin et puis il allait transcrire la parole des troubadours dans les marchés. Et donc c'est toute cette poésie orale africaine qui est propre à l'Algérie, à plein de pays en Afrique, qui est présente à travers ces poèmes qui racontent la mort, qui racontent la vie et qui voilà.
Mais alors justement, là vous évoquez cet homme qui à un moment montre sa carte de travail, on voit qu'il travaille depuis 1945 dans les abattoirs. Et en fait, je le disais au début, c'est vrai qu'il y a un panel extrêmement large au niveau des âges par rapport à ces hommes. Et vous disiez que la rencontre s'est faite avec eux aussi dans le dialogue et dans l'échange. Mais pour autant, comment ça s'est passé concrètement? Parce que voilà, il n'y a pas eu de casting, mais comment est-ce que vous avez composé aussi le film avec ces différents personnages?
Alors, il y a un personnage qui a 20 ans et le plus âgé a plus de 90 ans. Et ça s'est construit vraiment au fil des rencontres à l'intérieur des abattoirs. Et c'était surtout une question d'intérêt et de curiosité envers l'autre. Et de curiosité envers l'autre, c'est-à-dire qu'eux-mêmes étaient aussi dans la démarche de nous connaître et d'être dans une ouverture et de partage aussi. Ça a été vraiment une question de partage tout le long. Et Améali, par exemple, le monsieur qui est âgé, qui travaille là depuis 70 ans, c'est quelqu'un qui est abîmé par la vie, qui n'a plus trop de rêves. On a l'impression que sa vie est déjà passée, qu'il est en attente de quelque chose. Et à côté de ça, il y a aussi Youssef qui a 20 ans et qui... Et en même temps désespéré, mais qui rêve aussi d'ailleurs, qui rêve de partir de ses abattoirs, qui rêve d'aller en Tunisie, voilà. Il y a dans le film, je suis pas dit je vais faire un film que avec les jeunes ou que avec, mais vraiment d'être à l'intérieur et puis d'aller à la rencontre de ceux qui ont envie de parler, de ceux qui ont envie de partager un peu un bout de leur vie. Leur sensibilité, leurs rêves, et surtout aussi leur vision de la vie, du monde, parce qu'au-delà de ça, ils ont aussi une vision du monde, pas que de l'Algérie, de la politique, mais c'est des gens qui réfléchissent énormément ce qui les entoure, même s'ils n'ont pas fait d'études. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Donc ce serait ça, faire un film avec des ouvriers, ce serait un film aussi qui se fonde sur leur volonté à eux de faire ce film.
Exactement, et personne n'a été forcé, mais vraiment ça a été quelque chose qui s'est construite tout doucement. Alors avec certains qui adhèrent tout de suite à l'idée de faire un film, comme Youssef et Hossine, qui tout de suite ont compris là où on avait envie d'aller. Et Amo, par exemple, le philosophe qui parle de la vérité du mensonge, lui, pour le coup, a mis beaucoup plus de temps à arriver dans le film. Et c'est un peu chronologique dans le film, on le voit arriver aussi vers la fin.
Il est de plus en plus présent, oui.
Et de plus en plus présent. Au début, il était derrière la caméra, il était en train de regarder ce qu'on était en train de filmer et de commenter les images. Donc avec un œil très, très très curieux, il a les yeux qui pétillent. C'est quelqu'un vraiment de très très intéressant, philosophe, un point. Et voilà, donc des protagonistes qui ont adhéré tout de suite, et puis ceux qui sont venus un peu plus tard.
Mais alors, ce qui est étonnant aussi avec Dans ma tête, un rond-point, c'est que donc c'est un film avec des ouvriers, mais c'est un film qui se passe, on le disait, dans un abattoir, mais pour autant, ce n'est pas un film où le sang et où la mort est au cœur du sujet. Enfin, on voit des carcasses déplacées, on voit des peaux déplacées, brinque-ballées, mais en même temps, l'accent n'est pas du tout mis là-dessus. C'est un film sur des hommes au travail, mais ce n'est pas non plus tellement un film sur le travail. Enfin, c'est un film qui est à la lisière de plein de choses comme ça.
C'est un peu ça l'idée, et surtout la première idée en tête en allant dans les abattoirs, c'était de... Et le seul peut-être parti pris au départ de fond, c'était de se dire on fait un film sur tout, on parle de tout sauf de viande.
Pourquoi ?
Et parce que le... Et encore une fois, ce que je m'intéressais à ce que portaient et ce qu'il y avait en eux comme poésie, et les abattoirs devenaient un prétexte pour parler de l'Algérie d'aujourd'hui, pour parler de la vie, pour parler des rêves, pour évoquer... Et en plus, les abattoirs d'Alger, c'est... La spécificité, c'est que les gens, les ouvriers à l'intérieur ne sont pas d'Alger, pour la plupart, à 90%. Ils viennent de l'intérieur du pays. Donc, c'est des gens exilés dans leur propre pays, presque, ils sont loin de leur famille et qui vivent un exil intérieur.
Florence ?
Et en même temps, pour revenir sur la question animale, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un cycle entre ces animaux quand même qui sont morts, ces carcasses, ces peaux, et la présence des chats. Vous les filmez beaucoup, ces chats qui sont vivants, qui sont là, qui accompagnent ce monsieur qui est âgé, qui mange un peu de viande, on comprend qu'ils sont aussi là pour ça. Et enfin voilà, est-ce qu'il y avait aussi cette idée de filmer l'animal vivant, tout simplement ?
Alors, très bonne question, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. En tout cas, il y avait cette idée de comment la mort, ces hommes côtoient la mort de tous les jours de ces bêtes, et comment la vie en ressort. Il y avait cette idée-là, mais je ne me suis jamais dit que je voulais travailler sur la souffrance animale, même si je suis sensible à ces questions. Mais c'était pour ce film-là, ce n'était pas mon désir de parler. Mais on peut trouver, sans doute, et beaucoup de gens le disent, des résonances entre l'animal, la bête et la souffrance. Et des fois le désespoir, et des fois la vie qui vient en contrepoint de ça.
Florent ?
On a un moment aussi très fort avec Youssef à la fin qui parle de son désespoir et de la possibilité soit d'émigrer, soit de se suicider. Qu'est-ce qu'il est devenu ? J'ose vous poser la question. Est-ce que...
Non, il est toujours aux abattoirs, Youssef.
Ouais.
Mais en même temps, c'est une question qui est importante. Mais ce n'est pas une parole absolue. C'est ce qu'il a dit à ce moment-là, les choix qu'il a à faire. C'est dans un moment précis de sa vie, c'est dans un... Et en même temps, dans le film, il y a aussi lui qui rêve, il y a lui qui chante, il y a lui qui rêve d'un ailleurs. Et c'est vrai que ce moment-là, qui est très intime quand il s'est livré, mais ce n'est pas figé en même temps. Il a envie de partir. Là, je l'ai vu il y a un mois, il n'est plus dans cet état-là, par exemple. Il a envie d'autre chose, il cherche un autre travail...
Cette question de l'émigration et de l'exil, on la croise aussi dans le film à plusieurs moments, mais à travers un élément plutôt drôle, en fait, qui est la présence de cette mouette. Donc la mouette, elle a été recueillie par Amou. Amou, c'est donc le personnage que vous qualifiez de philosophe. Et Amou, il s'en occupe en imaginant que la mouette arrive d'Angleterre, et que donc la mouette aurait fait le choix de quitter l'Angleterre pour venir s'installer en Algérie. Et c'est vrai qu'à travers, comme ça, l'inversion du parcours du migrant, c'est aussi un regard désabusé sur la situation, leur situation à eux, ou la situation des Algériens.
Oui, alors il y a... on peut pas nier qu'il y a une envie de partir chez beaucoup de personnes, chez Youssef, chez les autres protagonistes, mais aussi ce qui était dans cette séquence et qu'on a décidé de garder parce que voilà, elle parle de, elle évoque, j'allais dire drame, mais c'est pas un drame, le fait que les gens veuillent bouger, ça a été toujours un acte humain de se dire on déplace les frontières, on bouge, on a envie de partir, et il évoque lui le départ à travers une mouette, et j'ai trouvé ça très poétique. C'est une manière détournée de raconter l'état de plein de jeunes aujourd'hui en Algérie qui ont envie de partir, et alors qu'il y a du fric dans le pays, il le dit aussi, elle est venue aussi parce qu'il y a de l'argent, donc il y a quelque chose de marrant là-dessus, c'est-à-dire de cette mouette-là qui est venue d'Angleterre, et puis là c'est l'imaginaire pur qui est en train de parler, et ça c'est génial, je trouve.
Oui, il y a un côté, bah, c'est à la fois c'est humoristique, en même temps c'est désabusé, c'est ironique, et c'est vrai qu'à la fin aussi, cette mouette, elle ne veut pas quitter l'abattoir, et on se dit aussi que c'est presque une métaphore d'eux qui sont tellement attachés à ce... C'est autant leur lieu de travail que leur lieu de vie, c'est là que tout se construit pour eux.
Ouais, c'est ça. Et alors la mouette, au départ, elle est attachée, on la voit, elle est menottée, et puis c'est évoqué un peu dans le film, le temps qu'elle s'adapte, et un peu après dans le film, on la voit libre. Donc elle a été relâchée. C'est, je ne sais pas si on peut faire des analogies, mais en tout cas, voilà, c'est aussi l'animal qui est libéré, qui a envie de partir, de s'envoler.
Alors Amou, donc, qui s'occupe de la mouette, vous le disiez, c'est quelqu'un qui est de plus en plus présent. Et c'est vrai que vers la fin du film, il y a tout un échange avec vous sur la question du titre du film, et Amou a proposé on ne ment pas mais on ne tombe pas dans la vérité.
Il dit exactement, pour mentir je ne mens pas, et la vérité je ne tombe pas dedans, et c'est un peu une phrase qui m'a accompagné pendant tout le long du film, cette question de le réel, la vérité, le mensonge dans le documentaire, dans le cinéma. Elle est très importante et elle ne sera jamais réglée. En fait, un cinéaste, je pense, fait toujours avec. Et le mélange entre documentaire et fiction est posé aussi dans cette phrase. Et c'est un peu comme une épitaphe qui m'a accompagné pendant tout le long du film.
Et pourtant, vous ne l'avez pas choisi comme titre.
Oui, pourtant, on a failli. On a vraiment hésité, mais on le trouvait, c'est un peu trop long.
Justement, d'ailleurs, c'est ce que vous lui répondez. Vous lui dites, c'est trop long comme titre. Mais donc, ça veut dire que quand on est réalisateur, il faut aussi déjà qu'on pense à un titre qui sera susceptible d'être plus vendeur ou plus...
Alors, je sais pas, plus vendeur, il faut toujours des titres. Mais je ne réfléchis pas en question de vente ou marketing. Mais en tout cas...
Néanmoins, mais
en même temps, elle peut faire très marketing, cette phrase. Si pour mentir, je ne mens pas, et la vérité, je ne tends pas dedans, ça fait un peu les titres à rallonge du cinéma d'auteur d'aujourd'hui. Et donc non, je voulais pas non plus tomber dedans. Et dans ma tête, un rond-point, c'est aussi un titre poétique et qui évoque plein de choses.
Et qui d'ailleurs, en fait, cette phrase, elle est, c'est celle du plus jeune des travailleurs, en fait, qui évoque ainsi, enfin oui, sa situation où il hésite.
Et c'est ça, et je pense que pour pas mal d'entre nous, en tout cas, on a un rond-point dans notre tête, pas tout le temps, mais il se trouve qu'on est confronté à des choix, on est confronté à des envies, des fois on tourne en rond. Et cette phrase-là, elle m'a marqué, c'était pendant le montage, hein, qu'on avait décidé à la fin du montage de prendre cette phrase-là comme titre. Et c'était aussi à l'image de notre petite équipe à l'intérieur des abattoirs, on était deux. Mon ami Jamel, ingénieur du son, et moi, qui tournions constamment dans les abattoirs. On était vraiment tout le temps en train de tourner comme dans un rond-point.
Pourquoi ?
Qu'est-ce que
ce dispositif-là permettait ?
Ah non, mais c'était pas un dispositif, c'était.
Protocole.
C'est pas protocole. C'était juste marcher au gré des rencontres et du hasard. Et puis les gens travaillent là-bas surtout. Et on pouvait pas passer 5 heures. Au bout d'un moment, les gens en ont marre aussi. Donc on passait d'un protagoniste à un autre. tout au long de la journée, et puis on revenait vers un autre. Donc voilà, il y a cette double évocation du rond-point dans le film.
Mais alors justement, vous évoquiez hier à la rencontre également que en débutant le film, enfin en débutant le travail dans l'abattoir, vous aviez souhaité aussi que les travailleurs vous voient vous-même au travail. C'était pour qu'il y ait une relation d'égalité, un rapport d'égalité qui s'installe.
En tout cas, c'est un lieu. Il était important de. C'est pas un lieu où on peut faire des repérages. Dans le sens où on arrive 3 mois avant avec un calepin et puis on fait un casting, dire je viens tourner. C'est pas comme ça qu'ils appréhendent les choses. Ils n'ont pas le même rapport au travail, au repérage, au rendez-vous, à tout. Donc il fallait vraiment être là et puis porter son trépied sur les épaules. Il fallait se trimballer avec, il fallait être en tenue de en bleu de travail, pas pour faire semblant, mais parce que aussi on est imprégné par l'odeur, par le sang, par tout ça, et c'était important de dire que nous aussi on est des travailleurs de l'image, pas de la viande, mais et ça a permis un rapport du coup. On était de temps en temps, je me permettais quand quelqu'un voulait prendre la caméra et faire un plan ou essayer la caméra, c'était toujours d'accord. Et des ouvriers qui m'apprennent les rédiments, comment leur travail, ils me montraient leurs gestes. Si un jour, moi je le fais pas, mais je dois sacrifier une bête, aujourd'hui je sais le faire. Donc voilà, c'était ça.
Florence.
Il y a un passage comme ça aussi que j'ai trouvé très intéressant où c'est Amou, je crois, qui. Donc il y a des caméras, des journalistes qui viennent à l'abattoir pour l'Aïd. Et vous avez un échange avec Amou qui dit mais ils ne sont pas venus me voir, ils viennent. Enfin, donc les ouvriers disent ils ne viennent pas en dehors de l'Aïd. Et dit s'ils étaient venus jusqu'à moi, je leur aurais répondu ceci, cela. Et là, on sent qu'il y a un jeu qui s'instaure et qui s'empare en fait de la caméra et du film en fait. C'est lui qui à un moment donné prend les devants et dit ce qu'il a à dire et qu'il n'avait pas forcément la possibilité de dire ailleurs.
C'est ça, c'est très juste. Hein. Il participe au film, Amou. Il est là, il crée de la réflexion, il crée de, voilà, même des images. Il est partie prenante. Mais c'est aussi une réflexion sur l'état du journalisme aujourd'hui, pas qu'en Algérie, mais aussi dans le monde. C'est-à-dire et du reportage. C'était cette envie aussi de dire qu'est-ce que faire une image. On débarque avec une caméra pendant 2 secondes, on le voit dans le film. Les gars, ils ouvrent leur caméra, ça haïdek, on dit bonjour, machin, je vous souhaite un joyeux haïd, et ça s'arrête là, et puis ils repartent. On entend ça chaque année. Bon, peut-être qu'on n'a même pas besoin de revenir normalement pour fêter ça. On peut reprendre juste les images de l'année dernière et les coller. Amou a une réflexion là-dessus, c'est-à-dire il dit, ils viennent nous voir que le jour de l'haïd, et c'est assez juste, quoi. C'est que le jour que quand il y a la fête.
Vous voulez dire que le documentaire, ça serait aussi fuir l'événement, fuir l'événementiel et
ah oui, c'est...
par rapport au reportage.
Mais oui, une des différences, à mon avis, entre ça, c'est le recul, c'est le temps, c'est fuir le moment. Et peut-être même, le reportage peut exister sans les protagonistes, pour revenir à un truc de faire avec... peut-être qu'un vrai... Peut-être, hein, je ne sais pas, je ne suis pas non plus... spécialiste ou le documentaire ne pourrait pas exister sans eux, quoi, ces images sans Amou ne pourraient pas exister, sans Hossein, sans Youssef, moi je me lance dans un terrain un peu glissant, je crois, mais
non, mais justement, alors vous faites pour l'instant le choix du documentaire dans votre travail de réalisateur. Est-ce que c'est aussi parce que ce qui vous importe dans le cinéma, c'est de travailler avec des personnes, de construire des films avec des personnes, plutôt que de la fiction en regard
J'ai des envies de fiction, mais encore une fois, ce que peut permettre le documentaire, c'est de rentrer un peu plus en profondeur et d'être dans le contradictoire. Mes personnages, ils sont des fois contradictoires. Ils pensent ça aujourd'hui, et de la veille, ils pensaient autre chose. C'est un peu comme moi. un peu comme tout le monde, j'ai l'impression. Alors que le reportage, non. Le reportage vient de dire, c'est comme ça. C'est figé. Ça encercle. Et je crois que le documentaire est là pour dire non, c'est pas du tout. C'est pour ça que quand il dit j'ai envie de. Ici, t'as trois choix, c'est fuir, partir ou brûler. Il le pense à ce moment-là, mais. Le lendemain, il va parler à sa copine comme il l'a fait au début du film. Et là, il est dans un autre rapport au monde, un rapport à la vie.
Alors, c'est la première fois que vous venez à Entrevue ?
C'est toute première fois à Entrevue, ouais.
Alors, qu'est-ce que ça représente pour un jeune réalisateur de venir comme ça présenter son travail dans un festival ? Quels sont les enjeux ?
Alors, on est toujours très content quand le film est sélectionné. C'est toujours une petite consécration. On est toujours content quand le film est projeté. Et donc ça veut dire qu'il y a un débat, ça veut dire qu'il y a une rencontre avec des gens, ça veut dire qu'il y a des avis qui sont différents. Après, je serai aussi content et j'ai hâte de pouvoir le montrer dans des ciné-clubs. Dans des petites villes en Algérie pour échanger, c'est ça le plus important pour moi. C'est vraiment de créer la rencontre, de créer le débat, de créer l'échange, de voir comment réagir à mes images. C'est ça le plus important. Mais en tout cas, je suis très très content d'être ici, de voyager, de voyager avec mon film. Et puis c'est ça le plus important, c'est aussi que le film voyage tout seul et qu'il puisse être vu. Au-delà de là où il a été fabriqué, et c'est aussi important qu'il soit montré en Algérie, là où il a été fait, parce que ça parle peut-être plus directement, mais un film c'est aussi universel. Et j'ai l'impression aussi que ces personnages ne se contentent pas de regarder Alger et l'Algérie, mais ils ont un côté très, très universel.
Et d'ailleurs, on parle de montrer vos films. Vous disiez hier, pour l'instant, seule une petite partie des personnages
Alors,
de Dans ma tête
j'ai dit, j'avais organisé une projection, mais et ils sont pas venus, ils m'ont posé un lapin. Mais je descends la semaine prochaine et je vais les réunir et leur montrer le film et en discuter avec eux. Ouais.
Et ceux qui l'ont vu, comment l'ont-ils reçu ?
Moi j'étais surpris, vraiment il y a eu étonné déjà, parce que on n'a pas forcément une idée en tête quand on voit quelqu'un en train de filmer, on ne sait pas vers où il part. Après c'est une question aussi de confiance, et je crois que le plus important c'est que je n'ai, et là où j'étais content, c'est de ne pas trahir. Et ça s'est ressenti, et ça j'espère que ça va se sentir chez les autres aussi. En fait voilà, ce serait le plus beau des cadeaux de se dire, de se voir et de se dire ah merci, pas merci forcément, mais on n'a pas été trahi.
Alors j'avais une question là qui était beaucoup plus prosaïque, mais qui porte sur la production. Donc le film est algéro-franco-libano-qatari.
Ouais,
est-ce
ça
que
c'est.
Vous pouvez nous expliquer le montage de cette production?
Ça c'est un peu. Oh là là, c'est un film surfinancé. Mais pas du tout, hein. On est vraiment dans pas le minimum, parce que, mais on a, en tout cas pour raconter un peu la production de ce film, on est parti en tournage sans un sou, et on a raté des aides à l'écriture, on a été refusé, et puis tout l'argent qu'on a eu pour on l'a eu en post-production, c'est-à-dire qu'on a montré des images. Donc on a eu le Liban, on a eu Doha, on a eu l'Algérie qui nous a soutenus, mais ce que sur des images, c'est-à-dire des aides à la post-production. Et c'est peut-être une nouvelle manière de faire du cinéma, c'est-à-dire de montrer après avoir fait. Même, en tout cas, c'est peut-être pas la règle, mais peut-être c'est aussi une issue pour faire. Mais en tout cas, nous, on allait le faire, on allait continuer. Parce que des films, c'est des sacrifices et c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie ou qu'on. Même si là, j'étais payé, hein, Mais c'est avant tout une envie de faire des films, de mettre sa vie entre parenthèses. Et ça devient une nécessité, c'est-à-dire de se réveiller le matin et de se dire « Ah, j'ai envie de faire ce film. »
Et vous allez où maintenant ? Vous faites quoi? Il y a un nouveau projet d'écriture qui est lancé?
Alors j'écris très peu, ouais. J'ai ce souci-là avec l'écriture parce que je visualise plus, je prends plein de notes, des photos aussi beaucoup. Et après je rassemble cette matière et j'attends la nécessité. J'attends le projet avec lequel je me réveille le matin et qui me dit ah là tu dois aller le faire. Ça devient une question vitale presque. Mais toujours travailler sur des projets en Algérie, toujours interroger ce territoire-là, parce qu'il y a plein d'images à faire, il y a plein de personnages à filmer, plein d'histoires à raconter. Et il y en a d'autres hein, qui le font. Je ne suis pas tout seul, il y a plein de réalisateurs très très intéressants. C'est aussi de là d'où je viens, c'est aussi là où j'ai envie de raconter des histoires.
Est-ce qu'il y aurait une scène du jeune cinéma documentaire algérien? Il me semble que l'année dernière, il y avait Blad Cinéma de Lamine Amar Kodja qui était programmé aussi à entrevue. Est-ce que ça constitue un réseau? Est-ce que vous vous connaissez entre vous?
Alors, il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu Lamine, donc l'année dernière, qui a eu une mention. Il y a Tariq Teghia, qui a remporté un prix il y a 2 ans, je crois. Alors, je ne sais pas si c'était avec Zenj, Révolution Zenj.
Oui.
Et Chantier A de Tarek aussi, qui est un film algérien.
Oui, ils étaient là il y a 2 ans.
Il y a 2 ans aussi. Donc oui, on se connaît tous. On se fréquente, on s'entraide, on échange, on discute de nos films. Je ne sais pas si on peut appeler ça la jeune génération, mais on est plus à l'écoute, attentif. On se parle beaucoup, on échange, on envoie des mails. Voilà, donc c'est... Et il se passe quelque chose du côté du documentaire. C'est vraiment... Plus que du côté de la fiction, même si Tariq Teghia est quelqu'un qui fait de la fiction, mais toujours avec cette question-là du documentaire. Et c'est quelqu'un qui, avec son film Rome plutôt que vous, je faisais partie d'un ciné-club à Alger. Quand on l'a montré, ça a été une décharge. C'est quelque chose de vraiment... une décharge pour se dire « Ah tiens, possible de faire des films ici, avec très peu de moyens. »
Très bien, mais merci beaucoup d'être venu nous voir à Saint-Pierre-Ami. Alors, il y a une dernière projection pour Dans ma tête un rond-point. Ah non, la dernière avait donc lieu hier. Voilà, mais donc le film va continuer sa route. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais il a reçu le premier prix de la compétition française au FID à Marseille.
C'est ça.
Et donc là...
Il y a une petite sortie en salle de prévu pour le 24 février.
Très bien, mais alors belle route donc à Dans ma tête un rond-point.